Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Un nouveau venu sur la scène politique européenne, Igor Matovič, est en train de former une coalition pour devenir le prochain Premier ministre slovaque. Les élections du week-end dernier ont vu la victoire de son parti Olano, acronyme du Parti des gens ordinaires et des personnalités indépendantes. Mais l'homme n'est pas ordinaire et on verra s'il est indépendant. Son programme lutte contre la corruption qui a gangréné l'ensemble de l'État et conduit à l'assassinat du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne. Alexis Rosenzweig a suivi les élections à Bratislava et il signe son portrait.
C'est essentiellement contre l'ancien Premier ministre Robert Fico et ce qu'il appelle sa clique mafieuse qu'Igor Matovič s'est forgé pendant les 10 dernières années. L'image d'un fervent combattant de la corruption qui a gangréné le pays jusqu'au sommet de l'État. Avec plusieurs coups d'État médiatiques, dont le dernier en date a formidablement aidé sa campagne électorale. À Cannes, en France, ses compères l'ont filmé devant la villa d'un ancien ministre de Fico qu'il accuse de détournement d'argent public et auquel il réclame de rendre l'argent aux contribuables slovaques. Avant son entrée en politique, il y a une douzaine d'années, Igor Matovič a mis au nom de son épouse la société d'édition de journaux régionaux très prospère qu'il avait fondée en 2002. Il est ensuite devenu l'un des députés les plus présents dans les médias et a dénoncé les dérives mafieuses du pouvoir en place. Fait assez exceptionnel en Slovaquie, 3 membres de la minorité rome ont été élus au Parlement sur la liste de Matovič. D'ailleurs, le seul eurodéputé de sa formation est aussi un rome. Il siège au sein du Parti populaire européen. Igor Matovič, 46 ans, se dit ouvertement conservateur, très conservateur pour certains, et peu enclin à ouvrir le débat sur l'accès à l'avortement ou sur le mariage homosexuel. Pour former sa coalition gouvernementale, il n'a pas hésité une seconde avant d'entamer des négociations avec le parti d'extrême droite qui s'appelle « Nous sommes une famille », un parti slovaque allié au niveau européen à ceux de Marine Le Pen et de Matteo Salvini.
Greta Thunberg à Bruxelles aujourd'hui pour participer à une réunion de la Commission européenne. La jeune égérie de la lutte contre le réchauffement climatique est, on s'en doute, une caution et un joli coup de pub alors que l'exécutif européen doit présenter son plan climat. L'objectif est ambitieux, la neutralité carbone pour 2050. L'Autriche a déjà dit qu'elle s'y préparait. La nouvelle coalition au pouvoir entre les conservateurs et les Verts prend les devants, y compris en limitant la vitesse sur route, source de pollution. Le précédent gouvernement avait autorisé les automobilistes à rouler à 140 km/h sur certaines portions d'autoroute. C'est désormais terminé. Céline Béal a trouvé des conducteurs autrichiens perplexes face à ces messages contradictoires.
Je trouve qu'ils devraient plutôt inciter les gens qui roulent lentement à rouler un peu plus vite. Allez voir sur l'autoroute. Ici, c'est une catastrophe. Quand on roule à 90 ou à 100, on n'a rien à faire sur l'autoroute.
Moi, je vous dis que quand on est sur l'autoroute et qu'on respecte la limite à 130, en gros, on se fait doubler par tous les autres, on se fait entuber, si vous me permettez de le dire comme ça. Quand on roule à 140, nous, sur nos taxis, on règle le régulateur de vitesse vers 142, 143, eh bien, on avance mieux, on voit que le trafic est plus fluide.
À Vienne, à la centrale de l'association d'automobilistes EAMTC, Martin Hofer, le chef du département juridique, estime qu'une limite trop basse peut même s'avérer dangereuse.
Il faut toujours que vous gardiez un œil sur le compteur pour vérifier que vous ne dépassez pas cette vitesse, alors que vous sentez que vous pourriez aller plus vite sur cette route-là. Au lieu de regarder le compteur, ce serait plus malin de regarder ce qui vous entoure, s'il n'y a pas quelqu'un à proximité du bord de la route, des enfants ou des animaux, ou s'il n'y a pas d'autres usagers de la route qui arrivent par derrière.
Selon lui, la route est perçue comme l'un des derniers espaces de liberté en Autriche, et c'est pour cela que le débat polarise autant la société. Lors de la période test, le nombre de blessés ou de morts sur les routes concernées n'a pas augmenté. En décidant d'apposer à nouveau de ne pas dépasser les 130 km/h, le gouvernement autrichien, mené par les conservateurs en coalition depuis janvier avec le Parti Vert, a surtout en tête la question écologique. Une étude publiée l'été dernier donne quelques chiffres. Sur le tronçon de 40 km de long qui commence à Melk, la vitesse à laquelle on roulait les voitures a en moyenne augmenté d'un peu moins de 3 km/h et les émissions de gaz polluants de 1 à 2%.
C'est 1 ou 2%, ça semble peu, mais nous, on veut réduire nos émissions de CO2 d'ici à 2030.
Imrich Weiderbauer, conseiller municipal et porte-parole du Parti Vert à Melk.
Donc, on ne peut pas se satisfaire d'une augmentation de 1 ou 2% ou même davantage si la mesure était généralisée. C'est complètement contre-productif. Ça va dans la mauvaise direction.
Le gouvernement veut atteindre la neutralité carbone en 2040, 10 ans avant le reste de l'Union européenne. Il prévoit en particulier d'ambitieux investissements dans les transports en commun. Mais les Verts ne sont pas anti-voiture. Imrich Weiderbauer comprend que certaines personnes aime faire de la vitesse.
C'est très bien que les gens soient tous différents, qu'ils aient des besoins différents. Seulement, quand il en va de l'environnement, quand on sait maintenant qu'on court à la catastrophe, il faut que ces gens-là entendent aussi raison et se disent peut-être que ce n'est pas nécessaire.
Un sondage effectué en décembre auprès des automobilistes du pays montre que les plus jeunes sont les plus fervents défenseurs de la vitesse et les plus âgés, ses plus grands détracteurs. Si le débat est pour l'instant clos sur la scène politique, il y a tout à parier qu'il se poursuivra au sein des familles.
Et la limitation de vitesse, c'est bon pour l'environnement, c'est aussi une des clés d'une meilleure sécurité routière. Rouler moins vite sauve des vies. La Bulgarie en sait quelque chose. On meurt 2 fois plus sur les routes bulgares que sur les routes françaises. Il faut dire qu'on contrôle et qu'on verbalise très peu les excès de vitesse dans le pays. Reportage à Sofia de Damien Vodenicharov.
La guerre de la route, voilà l'expression qu'utilisent les Bulgares pour décrire les conditions de sécurité sur les principaux axes de circulation du pays. Le taux de mortalité est très élevé en Bulgarie, un des pires d'Europe, avec 99 morts pour 1 million d'habitants, le double du taux français. Plus de 628 personnes ont perdu la vie dans des accidents en 2019, près de 8500 ont été blessés. Témoins de ces statistiques dramatiques, les plaques commémoratives que l'on croit souvent sur le bord de la route en mémoire des victimes. Principale cause de cette mortalité, la vitesse. En 2018, plus de 1000 accidents qui ont fait plus de 140 morts étaient survenus suite à un excès de vitesse. Les experts de la sécurité routière déplorent les limitations de vitesse très élevées, notamment sur les autoroutes, où on peut rouler à 140 km/h. Vladimir Todorov de l'Association des victimes d'accidents.
Ces limites ont été décidées par les politiques contre l'avis des experts. Dans tous les pays où la sécurité routière est exemplaire, les limites sont moins élevées. En Angleterre, elle est de 110 km/h sur l'autoroute, aux Pays-Bas, elle est de 120, et ces pays ont une meilleure infrastructure et un parc automobile beaucoup plus récent que la Bulgarie. Le problème, c'est qu'avec une limitation à 140, on conduit à 150, voire plus. Mais pour changer ça, il faudrait trancher au niveau politique et ce serait une mesure impopulaire.
Autre gros problème, les infrastructures. Dans les régions pauvres du pays où le trafic est très intense, comme le Nord-Ouest, il n'y a pas d'autoroute. Vladimir Todorov.
Le manque de marquage routier est un gros problème aussi. Et là, les autorités sont parfois de mauvaise foi. Les travaux sont effectués avec des matériaux de mauvaise qualité, le marquage disparaît au bout de quelques mois et on dit ensuite qu'il n'y a plus de financement. Ou alors les routes sont mal faites, comme à Svogé.
Svogé, c'est une ville à une cinquantaine de kilomètres au nord de Sofia. En octobre 2018, un bus transportant des personnes âgées sort de la route, transperce la glissière de sécurité et s'écrase sur un terrain vague une vingtaine de mètres plus bas, faisant 20 morts. L'enquête dévoile que le bitume était beaucoup trop glissant, bien loin des exigences légales. Les glissières au bord de la route étaient aussi mal posées. Enfin, les cours de conduite, trop courts et limités à la circulation en ville pendant la journée, sont aussi montrés du doigt. Pour lutter contre les chauffards, la police affirme se reposer sur les hautes technologies. En quelques années, elle a ajouté des caméras mobiles et des caméras infrarouges. Elle organise aussi des contrôles ciblés lorsque le trafic augmente, pendant les jours fériés, pendant les vacances d'été ou lors des bals de promotion. Mais il en faudra beaucoup plus pour inverser la tendance.
Et à l'autre bout de la liste européenne, on trouve le Royaume-Uni, le pays le plus sûr d'Europe, où l'on compte le moins de morts sur les routes. Toujours à titre de comparaison, 2 fois moins qu'en France. Ce n'est pas un miracle, c'est une vraie stratégie construite au fil des ans à Londres, Marie Billon.
Pour expliquer une baisse d'un tiers du nombre de morts sur les routes en 10 ans, la Grande-Bretagne fait valoir son approche globale du problème. Certes, on fait grand cas de la prévention routière, mais on a aussi mis l'accent sur l'amélioration de la signalisation, des infrastructures et de l'état des routes. Le gouvernement a récemment débloqué 100 millions de livres destinés aux 50 routes les plus dangereuses d'Angleterre. Un peu moins de 500 millions a aussi été investi pour financer des études spécifiques sur les causes des accidents et comment les éviter. Des efforts ont aussi été faits pour mieux former les nouveaux conducteurs. Au Royaume-Uni, un jeune peut conduire sur la route s'il a un permis provisoire et qu'il est accompagné. Il n'a pas d'heure de conduite minimum à effectuer. Cette méthode n'est pas remise en cause, mais il est question d'autoriser les détenteurs d'un permis provisoire à aller sur les autoroutes. Et ce, afin de ne pas débarquer pour la première fois sur une bretelle d'autoroute sans jamais avoir tenté l'expérience. Le pays est aussi connu pour ses campagnes de prévention routière choc. Elle en produit aussi beaucoup d'autres et pour tous les publics, comme celle de l'association Think, qui s'adresse en particulier aux jeunes hommes de 17 à 24 ans, la portion d'âge qui a le plus d'accidents, surtout quand plusieurs amis sont dans la même voiture. Quand les passagers se montrent des vidéos sur leur portable, qu'il se passe sur les sièges avant et arrière, cela affecte la concentration du conducteur. Quand il chahute trop, le danger est là aussi, dit un autre spot. Les bons réflexes sur la route, ça s'acquiert dès le plus jeune âge, dit l'association Brake. Elle a produit une brochure pour les enseignants, conseillant de commencer l'éducation routière par des jeux de rôle dès l'âge de 2 ans.
Et à l'échelle européenne, comment légifère-t-on chez nos voisins en matière de sécurité routière et d'excès de vitesse entre l'Allemagne, où il n'y a pas de limitation sur la plupart des autoroutes, et le Royaume-Uni, où l'on ne doit pas dépasser 112 km/h, la palette est large. En France, le gouvernement a voulu faire passer la vitesse maximale sur les routes secondaires de 90 à 80 km/h, avec la grogne que l'on a pu observer ensuite dans l'opinion publique. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Finalement, le gouvernement français a autorisé les départements à conserver la vitesse à 90 km/h, mais peu ont choisi cette option.
On se souvient que, face à la grogne des Gilets jaunes qui dénonçaient une mesure frappant les automobilistes ruraux les plus modestes, le gouvernement avait accepté d'assouplir l'abaissement général de la vitesse de 90 à 80 km/h instauré en juillet 2018 sur l'ensemble du réseau national et secondaire français, soit 400 000 km de route. Mais cette possibilité accordée aux autorités départementales est assortie de conditions drastiques, ce qui explique qu'à l'heure actuelle, seule une douzaine de départements ont décidé d'utiliser cette possibilité, le régime dérogatoire ne concernant à ce jour qu'environ 10 000 km de route, soit 2,5% du réseau concerné par la limitation à 80.
Et cette limitation impopulaire a-t-elle porté ses fruits ?
La communication gouvernementale l'affirme, mais il n'est pas évident de répondre à cette question. Les chiffres de 2018 sont plutôt meilleurs, c'est vrai, mais la limitation de vitesse n'a concerné qu'une partie de l'année. Et en 2019, on a compté 3239 morts sur les routes, soit seulement 9 personnes de moins qu'en 2018.
Et qu'en est-il, Daniel, de la mortalité sur les routes dans les pays voisins ?
Seules les premières tendances se dessinent pour 2019. Le nombre de tués diminue de 220 personnes en Allemagne à 3054, mais il augmente de 85 personnes au Royaume-Uni, il est vrai à seulement 1870. Il est également en hausse en Italie, mais en sensible baisse en Espagne. Notons que dans ce dernier pays, la vitesse sur les routes secondaires a été ramenée de 100 à 90 km/h au début 2019. Rouler moins vite semble donc quand même économiser les vies.
Et comment se situe l'Hexagone en matière de sécurité routière ?
En ne considérant que le nombre de ceux qui ont perdu la vie sur la route par million d'habitants, la France est simplement à la 13e place européenne avec 48 décès par million. Loin derrière le champion britannique, 28 décès seulement, ou du Danemark, des Pays-Bas, de la Suède, qui se situe à 30-32. L'Allemagne et l'Espagne à 39 font également mieux que l'Hexagone, qui n'arrive à devancer en la matière parmi ses voisins que l'Italie.
Et y a-t-il en Europe d'autres pays qui remontent leur limitation de vitesse ? place.
La décision danoise prise en 2017 de remonter de 80 à 90 la limitation sur les routes secondaires n'a concerné finalement que quelques courts tronçons. Sinon, la tendance à diminuer la vitesse est générale. Outre l'Espagne, il y a l'Autriche qui vient de renoncer à généraliser une expérience d'autoroute limitée à 140 et non à 130. Quant à l'Allemagne, elle envisage de réduire à 90 km/h au lieu de 100 actuellement la vitesse autorisée sur le réseau secondaire. Et puis, outre-Rhin, l'opportunité d'exempter de limitation une bonne part du réseau autoroutier fait toujours débat.
Et pourtant, Daniel, on peut dire que les routes allemandes sont globalement peu meurtrières.
Globalement, oui, mais il faut noter qu'en 2018, 13% des accidents mortels sur le réseau routier allemand se sont produits sur l'autoroute. En France, cette proportion est d'à peine plus de 8% et au Royaume-Uni, elle n'est que de 6%. Donc, les autoroutes allemandes se révèlent nettement plus dangereuses que dans les pays voisins. Cette non-limitation allemande est d'ailleurs une parfaite exception en Europe où, sur les autoroutes, on ne peut en général dépasser les 120 ou les 130 km/h, sauf sur 40% des autoroutes polonaises où l'on peut rouler à 140.
Et pour conclure, l'Europe progresse-t-elle assez sur la sécurité routière ?
Absolument pas. Les objectifs fixés par l'Union sont très loin d'être atteints. La mortalité routière était censée se réduire de 50% entre 2010 et 2020, mais l'amélioration n'était que de 21% en 2018. Pour 2022, tous les pays de l'Union sont censés ne pas dépasser 35 morts par million d'habitants. Et seuls 5 pays atteignent d'ores et déjà cet objectif, Royaume-Uni, Danemark, Irlande, Pays-Bas et Suède. Et l'on ose à peine évoquer l'objectif de zéro mort en 2050. Pourtant, les instances de l'Union européenne ne baissent pas les bras et continuent à imposer des normes de plus en plus drastiques, notamment en matière de sécurité embarquée. Reste encore à améliorer le comportement des automobilistes.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Et on terminera ce grand panorama routier avec la Pologne, pays fort mal placé dans le palmarès européen. La mort dramatique en octobre dernier d'un jeune père de famille percuté sur un passage piéton par une berline lancée à 100 km/h en plein centre-ville a relancé le débat. Le Premier ministre a présenté de nouvelles règles de sécurité routière pour mieux protéger les piétons. Thomas Giraudeau.
Près de 3000 personnes sont mortes sur les routes polonaises en 2019, c'est un tiers de plus que l'année précédente, une augmentation spectaculaire de la mortalité routière. Varsovie fait exception, le nombre de morts a baissé dans la capitale en 2019, mais le problème est toujours présent, les statistiques sont éloquentes, 93% des accidents sont causés par les conducteurs et seulement 7% par les piétons qui traversent quand le feu est rouge ou bien hors des passages cloutés. Après le drame de la rue Socrates en octobre dernier, le Premier ministre Morawiecki a décidé de changer les règles au passage piéton. Si la prochaine loi sur la sécurité routière est votée, les piétons auront désormais la priorité. Ainsi, lorsqu'ils seront devant un passage clouté, sans feu, les voitures devront s'arrêter et les laisser passer. De plus, la vitesse sera limitée à 50 km/h dans toutes les agglomérations, tout le temps. Jusqu'à présent, c'était 60 km/h la nuit, entre 23h et 5h du matin. Mais cela fera-t-il vraiment baisser la mortalité sur les routes ? Certains plaident pour une augmentation du nombre de radars. La Pologne en compte très peu, à peine 1 pour 1000 km², c'est 23 fois moins qu'en Belgique ou au Royaume-Uni. Ils ne sont aussi pas très discrets, les boîtes jaunes sont visibles de loin. D'autres exigent que chaque passage piéton soit éclairé en ville, ce n'est pas le cas partout actuellement. Enfin, il faudra augmenter les sanctions comme le réclame une grande majorité des Polonais selon un sondage récent. Aujourd'hui, un conducteur qui roule à plus de 100 km/h en ville perd son permis durant 3 mois seulement.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.